Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le prix Nobel de chimie pour une Française, Emmanuelle Charpentier, c'est elle qui, avec l'Américaine Jennifer Doudna, a inventé ce qu'on a appelé les ciseaux génétiques, la technologie CRISPR-Cas9, un outil révolutionnaire de manipulation génétique, c'est la une du journal. Au sommaire également, la visite d'Emmanuel Macron auprès des sinistrés des Alpes-Maritimes, la baisse du nombre de tests Covid, ils sont désormais mieux ciblés, la majorité fracturée sur les néonicotinoïdes, le possible renvoi devant les assises de trois policiers pour les violences contre Théo il y a 3 ans à Aulnay. Et le football, un match France-Ukraine ce soir dans un stade de France quasi vide. 1000 spectateurs avec des absents sur le terrain pour cause de Covid. Invité d'Europe Midi, la militante féministe Martine Storti qui publie pour un féminisme universel une forme de réponse aux ultras qui, selon elle, dénaturent et affaiblissent le combat.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle fait partie des scientifiques français les plus prestigieux et les plus récompensés. Elle a souvent été citée pour le Nobel. Eh bien, c'est fait. Emmanuelle Charpentier, française de 52 ans, formée d'abord à l'Institut Pasteur, avant une carrière internationale qui l'a conduit en Autriche, en Allemagne et aux États-Unis, vient de se voir décerner le prix Nobel de chimie. Elle partage ce prix avec sa collègue américaine Jennifer Doudna. Toutes deux, lors d'Autriche, ont inventé un outil de manipulation génétique qui a révolutionné la biologie moléculaire CRISPR-Cas9.
Oui, après 30 ans de recherche, elle a créé en 2012 cette méthode, la méthode CRISPR-Cas9, une technique révolutionnaire qui permet de modifier des morceaux d'ADN afin de lutter contre certains cancers et guérir certaines maladies. Un outil capable de modifier un gène existant. Il permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils veulent. C'est un mécanisme souvent représenté avec une paire de ciseaux qui copie-colle l'ADN et qui permet de comprendre la fonction des gènes, de rechercher aussi de nouveaux médicaments. Alors c'est une méthode qu'Emmanuelle Charpentier a mise au point en Allemagne avec cette chercheuse américaine qui reçoit donc elle aussi le prix Nobel et qui deviennent les 6e et 7e femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901. Alors enfant, rien ne l'a prédestinée à se tourner vers la science. Emmanuelle Charpentier est la fille d'un responsable des espaces verts et d'une cadre en hôpital psychiatrique. Mais enfant, elle aimait l'école et elle avait envie de faire de longues études. Ses études l'ont donc emmenée sur le terrain de la génétique. Emmanuelle Charpentier ne cesse de chercher aujourd'hui encore. Elle expliquait il y a quelque temps qu'elle aimerait découvrir maintenant, dans les bactéries, d'autres mécanismes permettant de stimuler le système immunitaire contre les infections bactériennes.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Les sinistrés des Alpes-Maritimes peuvent compter sur le soutien de la nation dans la durée et à la mesure de la catastrophe. C'est la promesse d'Emmanuel Macron ce matin. Avant son déplacement dans les zones dévastées, Jean-Jacques Héry, vous êtes là où le chef de l'État va atterrir en premier, à Tende.
Oui, Tende, où les habitants devraient réserver tout à l'heure un accueil plutôt mitigé au chef de l'État, même si la plupart saluent quand même l'importance symbolique de la venue d'Emmanuel Macron, comme Jean-Michel.
Au moins, ils se rendent compte au moins de l'état des infrastructures qui sont touchées, de l'eau, du manque de courant, des gens, ils voient un peu les problèmes qu'il y a sur place.
Et... Florent, lui, est resté à Tende pour aider, dit-il, mais sa femme et son jeune fils sont partis à Nice ce matin par hélicoptère. Trop compliqué, en effet, de rester dans une maison sans eau, sans électricité. Et puis, il y a la peur aussi. Ils ont vu l'eau venir ronger leur terrain, s'arrêtant à quelques mètres à peine de leur habitation. Un traumatisme que le président doit comprendre pour le jeune homme.
Les personnes qui habitent ici, c'est pas qu'ils attendent particulièrement quelque chose du président, mais le soutien, ça va quand même, je pense, marquer les esprits et leur permettre de se relever plus vite.
Et puis il y a les méfiants aussi, hein, craignant les effets d'annonce d'un président qui va arriver et repartir aussi vite par hélicoptère. Car pour Roland, ça fait longtemps que la vallée de la Roya a été oubliée.
Si j'ai un message à faire passer à Emmanuel Macron, c'est de nous rétablir une ligne de vie, de nous rétablir cette voie ferrée. Si la voie ferrée avait fonctionné normalement, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y avait des routes qu'il fallait entretenir et consolider. Il y avait une voie ferrée qu'il ne fallait pas abandonner. On marche un peu sur la tête.
Emmanuel Macron devrait arriver tout à l'heure vers 15h ici à Tende. Il se rendra ensuite à Breil-sur-Roya, plus bas dans la vallée, avant de passer de l'autre côté dans la vallée de la Vésubie pour se rendre à Saint-Martin-Vésubie.
Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1 à Tende, dans les Alpes-Maritimes. Le Covid et le niveau qui continue de monter dans les hôpitaux parisiens. 40% de lits de réanimation occupés par des malades du Covid, contre 37 la veille. Plus de malades, mais moins de tests. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, Ève Roger. On peut dire que la course au dépistage indifférencié a enfin été stoppée.
Et oui, la tendance est là. Dernière semaine de septembre, moins 15% de tests PCR par rapport à la semaine précédente. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Moins 12% en Île-de-France, confirme l'agence régionale de santé, qui constate déjà 1000 tests de moins par jour dans les aéroports. Et puis dans les labos, on constate que le rush de la rentrée est passé. Ceux qui rentraient de grandes vacances, ils vous laissent rassurer. Ou encore ces dépistages massifs qui n'avaient pas beaucoup de sens. Les entreprises qui testaient tous leurs salariés pour un seul cas. Idem dans certaines crèches et écoles. Petit à petit, les demandes fantasques ont diminué au profit d'une plus grande rationalité, explique Lionel Baran, président du syndicat national des jeunes biologistes.
Alors nous avons constaté une baisse du nombre de demandes de PCR dans nos laboratoires depuis deux semaines, qui sont liées surtout au fait que les informations sur quand se faire dépister et quand ne pas se faire dépister commencent à passer auprès de la population. Et je pense notamment les informations concernant les cas contacts. Qu'est-ce qu'un cas contact? Tout le monde n'est pas un cas contact, et un cas contact de cas contact n'est pas un cas contact.
Et ben c'est donc un cercle vertueux qui serait en train de se mettre en place. Priorité aux vrais cas contacts, aux symptomatiques et aux soignants. Moins de tests donc, des résultats plus rapides et plus souvent positifs. Car mieux ciblés, la preuve, le taux de positivité grimpe en flèche de 6,4 mi-septembre à 9% aujourd'hui.
Ève Roger, en Belgique, Bruxelles ordonne la fermeture des bars et des cafés pour un mois jusqu'au 8 novembre à cause de pour endiguer la propagation du virus qui s'accélère dans la capitale belge.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, la fronde dans la majorité contre les néonicotinoïdes, l'affaire Théo et le football sous Covid.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Pour l'affaire Théo, ce jeune homme violenté par des policiers lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois en 2017, le parquet de Bobigny vient de requérir le renvoi de 3 policiers devant les assises pour violence volontaire, Guillaume Bier.
Oui, un procès aux assises parce que dans ce dossier, il y a des éléments incontestables et la vidéo de l'interpellation révélée sur Europe1.fr en atteste. Il y a bien eu des violences volontaires de la part des policiers et ces violences avec armes, en l'occurrence un bâton télescopique, ont entraîné une infirmière pour Théo, ça ce sont les expertises médicales qui le confirment. Donc des policiers qui commettent des violences avec armes entraînant une infirmité, c'est considéré comme un crime par le code pénal et c'est passible de 15 ans de réclusion aux assises. En revanche, dans son réquisitoire, le parquet de Bobigny estime que les accusations de viol ne tiennent pas au regard du dossier. Sous-entendu, les policiers n'ont pas eu la volonté délibérée de commettre des violences à caractère sexuel. C'est pourtant ce que soutiennent depuis le début Théo et ses avocats. Le procureur a donc requis un procès aux assises pour 3 des 4 policiers mis en examen. Non-lieu pour le quatrième qui n'a pas participé à l'arrestation, comme le montrent les images. Ce que la vidéo ne montre pas, en revanche, c'est que le jeune homme aurait aussi été frappé dans la voiture de police. Des violences que le parquet retient également à l'encontre de 2 des fonctionnaires. Leurs avocats et ce Théo ont maintenant un mois pour faire des observations. À l'issue, c'est la juge qui tranchera.
Merci à vous, Guillaume Bier. Les députés ont voté hier soir l'autorisation temporaire des néonicotinoïdes pour l'enrobage des semences de betteraves sucrières ravagées cette année par un puceron vecteur de jaunisse. Mais on parle d'une classe de pesticides néfastes pour les pollinisateurs et en premier lieu les abeilles. Le gouvernement explique que l'urgence est de sauver la filière sucrière et ses plus de 40 000 emplois, mais il a échoué à convaincre une 60aine de députés de sa majorité qui ont voté contre ou se sont abstenus. Virginie Salmen vient d'interroger 2 d'entre eux, Sandrine Lefeur, députée du Finistère, et Loïc Dombreval des Alpes-Maritimes.
Moi, j'ai voté contre parce que, étant maraîchère, je connais bien l'agriculture, mais je me suis rendue sur place pour une meilleure connaissance des betteraves. Donc, je suis allée voir un conventionnel et un bio. Et moi, les arguments ne m'ont pas convaincue. J'ai bien vu que le problème des producteurs de betteraves, ce n'était pas uniquement la jaunisse. Il y a le problème de la sécheresse, il y a un problème de marché, il y a un problème de biodiversité. Et je ne crois pas qu'il faille réautoriser les néonicotinoïdes pour sauver cette filière. Ce n'est pas la solution.
J'observe que sur des pesticides parmi les plus dangereux qui existent pour notre planète, il y a aujourd'hui une brèche qui s'est réouverte. Un retour en arrière pour la santé des plantes, des animaux et des humains. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Même si je comprends par ailleurs qu'il est absolument indispensable d'aider en transition la filière sucre, la filière betterave. Pour la récolte à venir, évidemment, aucune possibilité de mettre en place rapidement cette transition agroécologique. Il n'y a pas le temps, donc il faut les accompagner financièrement.
Deux députés LREM au téléphone de Virginie Salmen. Football, les Bleus jouent en match amical contre l'Ukraine ce soir au Stade de France. Un stade quasi désert et une équipe ukrainienne décimée par le Covid. Drôle d'ambiance, Cyril de la Morinerie.
Oui, d'abord, le Stade de France sonnera creux. On sera loin des 80 000 spectateurs enflammés du fameux France-Ukraine de 2013. Seulement 1000 personnes assisteront à cette rencontre. Mais surtout, l'équipe de France va affronter une formation ukrainienne très diminuée. 14 joueurs absents, dont 8 positifs au Covid-19. Les trois gardiens ont déclaré forfait. C'est un gardien qui n'a aucune expérience internationale qui jouera ce soir. Du côté de Clairefontaine, Léo Dubois a été mis à l'isolement, lui aussi positif au coronavirus. Malgré ce contexte très particulier, Didier Deschamps veut en profiter pour faire quelques tests.
L'intérêt, il est là. On a trois matchs, certes très, très rapprochés. Ça va permettre de répartir encore un peu plus, même si je l'ai fait le dernier stage, le temps de jeu entre tous les joueurs.
En tout cas, drôle d'ambiance pour fêter une 100e sélection. Olivier Giroud sera centenaire ce soir, titulaire donc, avec l'objectif de marquer son 41e but en bleu, afin de rejoindre Michel Platini, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Cyril de la Morinerie qui commentera le match en direct du Stade de France pour Europe 1 ce soir. Le temps. Anissa a dit moins de pluie cet après-midi.
Oui, avec tout de même encore de la Normandie à l'Alsace, quelques petites averses. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, Patrick, nous aurons une légère amélioration. Le soleil fera de belles percées sur l'ensemble du pays. En Bretagne et sur les Pyrénées, c'est là que le ciel sera le plus couvert. Et sur le quart sud-est, sur la vallée du Rhône, les Alpes, le pourtour méditerranéen et le pays niçois, jusqu'en Corse même, la journée sera printanière. C'est là qu'il fera le plus beau cet après-midi. Le vent d'ouest souffle toujours dans ce secteur et sur les caps Corse. Et les températures, elles gagnent quelques degrés dans le sud, avec jusqu'à 25 degrés à Bastia, 23 à Nice, 22 à Nîmes, 21 à Marseille, 17 à Paris, 16 à Lille et 14 pour Aurillac. Jeudi et vendredi seront les deux plus belles journées de la semaine.
Merci à vous, Anissa.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Dans un instant, le féminisme d'aujourd'hui vu par une militante historique qui prône, elle, un féminisme universel. Martine Storti, invitée d'Europe Midi.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Martine Storti.
Bonjour.
Vous avez été prof de philo, journaliste à Libération, F Magazine, inspectrice générale de l'éducation nationale et militante féministe depuis toujours. Vous publiez au Seuil pour un féminisme universel, livre qui répond, même si vous ne l'avez pas écrit ces dernières semaines, mais ça aurait pu, livre qui répond à l'émergence d'un féminisme radical, ultra, décolonial, promoteur de réunions non mixtes, voire anti-hommes. Au fond, et c'est un épisode que vous rappelez dès le début de votre livre, vous êtes resté fidèle à ces femmes iraniennes que vous avez vues manifester au printemps 79 en Iran, contre l'injonction de l'ayatollah Khomeini de porter le voile islamique.
Fidèle, d'autant plus que la lutte de ces femmes-là continue.
Elle continue avec Nasrin Sotoudeh.
Voilà, qui est en prison parce qu'elle a osé défendre les femmes qui osaient enlever leur voile dans l'espace public à Téhéran ou dans d'autres villes iraniennes.
Et j'en profite pour rappeler qu'elle est en danger de mort après une longue grève de la faim. Nasrin Sotoudeh, voilà. Avocate héroïque et toujours emprisonnée en Iran.
Et donc je pense qu'il faut une mobilisation universelle, si j'ose dire, pour la sortir de là, parce que c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Moi, si vous voulez, ce que j'essaie de sortir d'une sorte d'étouffement, hein, de deux dogmatismes concurrents. D'un côté, en effet, des gens qui, au nom de l'antiracisme, et bien évidemment qu'il faut être antiraciste, et bien évidemment qu'il faut lutter contre les restes de la colonisation, mais qui, au nom de cette lutte, qualifient toutes les féministes blanches de racistes, de colonisatrices, etc. Et puis, d'un autre côté, ceux et celles qui brandissent matin, midi et soir la République et qui expliquent que la République a toujours été pour l'égalité femmes-hommes. Et donc, dans les deux cas, on a une réécriture et une reconstruction de l'histoire. Et en plus, ces dogmatismes se renforcent l'un l'autre en un espèce de jeu de ping-pong. Alors moi, je trouve qu'il faut en sortir. Il faut sortir de cette approche binaire, de cette approche manichéenne, parce que c'est pas d'un côté le bien et puis d'un côté le mal. C'est plus compliqué que ça et plus complexe.
Je reviens à la lutte des femmes iraniennes et cette façon de regarder aussi ce qui se passe hors de nos frontières et dans le, notamment dans le monde arabo-musulman, vous fait dire que il n'y a pas un féminisme blanc ou un féminisme occidental, comme l'affirment des militantes comme Rokhaya Diallo.
Non, alors, il n'y a pas un féminisme blanc. Cela dit, il y a des blancs qui instrumentalisent le féminisme, si vous voulez. Donc et de même, il n'y a pas un féminisme noir. Il y a des femmes qui, et parfois aussi des hommes, qui, un peu partout dans le monde, se battent pour quoi ? Pour les mêmes choses. Pour l'égalité, pour la liberté, pour l'autonomie, pour ne pas dépendre de tel ou tel, pour ne pas être violée, pour ne pas être harcelée, pour avoir l'égalité de salaire, pour exister, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'elle-même. Et donc, voilà, moi je pense que le féminisme, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elles se battent toutes de la même manière, que évidemment, un combat féministe en France et un combat féministe en Afghanistan, forcément, dans les modalités, dans la manière de s'y prendre, ce n'est pas la même chose, mais les objectifs sont les mêmes. Vous parliez de l'Iran, moi je suis allée, j'ai fait beaucoup de missions en Afghanistan aussi après la chute des talibans, et j'étais à l'époque donc inspectrice générale donc de l'éducation nationale, je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient continué à scolariser les filles clandestinement au risque de leur vie, qui, tout de suite après, dès que ça a été possible, ont réouvert les écoles pour que les filles puissent y aller. Voilà, c'était des femmes profs. Moi, j'avais été aussi prof et il y avait cette identité, mais des deux, c'est-à-dire les ressemblances, parce qu'on était là, deux profs par rapport à la scolarisation des filles. Donc voilà, c'est ça le féminisme universel. Mais encore une fois, universel ne veut pas dire uniforme, ne veut pas dire partout pareil, ne veut pas dire impérialisme.
Mais il veut dire
construction,
par les...
chemin.
Et porté par les mêmes valeurs.
Pardon ?
Porté par les mêmes valeurs.
Porté alors par les mêmes valeurs et surtout les mêmes objectifs, c'est-à-dire là encore une fois la liberté, l'égalité, elle appartient pas à l'Occident.
Voilà.
Elle n'a pas été créée par l'Occident. Elle n'est pas un signe d'impérialisme. Elle est juste un chemin pour être soi-même, pour se réaliser.
Et qui ne se replie pas, qui ne se rabat pas sur une identité, écrivez-vous, Martine Sorcis.
Absolument, parce que je trouve que, souvenons-nous du ministère de l'immigration et de l'identité française sous Sarkozy, à ce moment-là, on a décrété que l'égalité femmes-hommes faisait partie de la République française, était même une composante de la République française. Alors, je trouve ça absolument incroyable, parce que les mêmes qui disent ça se revendiquent de l'universalisme. Alors, si c'est identitaire, ça ne peut pas être universalisme.
Oui, il faut choisir.
Et c'est pour ça que je trouve que, malheureusement, le mot universalisme a été détourné de son sens, a été dévoyé. Donc, avec beaucoup de tristesse, je ne le reprends pas à mon compte.
Donc vous dites
j'essaie de prôner quelque chose de différent, universel, en insistant sur le fait que ça se construit à chaque fois. Ce n'est pas un truc qui tombe du haut, qu'il faut mettre en œuvre. Ce n'est pas un chemin qui est déjà tracé. C'est un chemin qui, de génération en génération, se poursuit. Et vous savez, nous, quand on était les jeunes féministes dans les années 70, je me souviens très bien, il y a eu la publication dans une revue titrée, et c'est une excellente revue, Partisan, titrée « Libération des femmes, année zéro », c'était en 1970. On croyait que tout commençait avec nous. Chaque génération croit que tout commence avec elle, en effet, et voilà, c'est en même temps, c'est bien. Mais c'est pas vrai, il y a une histoire. Il y a ce qui est derrière nous, ce qui est maintenant, ce qui est devant nous.
Ouais.
Et pour les femmes, le chemin risque d'être encore très long. Parce que si les principes existent dans certains pays, leur mise en œuvre n'est pas toujours aussi importante. Enfin, en tous les cas, ne correspond pas à ce qu'on pourrait espérer.
Les hommes, il faut à notre tour les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Vous avez reconnu, Martine Sorcis, les phrases d'Alice Coffin, militante lesbienne, élue écolo à la mairie de Paris, qui se revendique du féminisme et qui pense peut-être qu'on en est à l'année zéro. Que vous inspire ce genre de proclamation ?
Écoutez, moi, j'ai pas lu le livre d'Alice Coffin. D'abord, les hommes, j'en peux plus des globalisations. C'est-à-dire, comme si tous les hommes étaient pareils, comme si tous les hommes étaient des sales machos, comme si tous les hommes étaient des violeurs. Donc, pour moi, c'est pas possible. Mais il y en a effectivement qui le sont, et beaucoup, et trop en tous les cas. Alors, je ne peux pas dire les hommes. Bon, moi, j'ai été prof de philo, je ne peux pas dire je ne vais pas lire les hommes. Mais Il faut quand même souligner que l'invisibilisation des femmes a été extrêmement importante et toujours. Alors, les femmes musiciennes, il y en a eu plein, on ne les connaît pas. Des femmes poètes, on en connaît quelques-unes. Regardez ce qu'il y a dans les manuels scolaires sur la place des femmes écrivains ou la place des femmes philosophes.
Il y aura peut-être une
fois qu'on a cité Simone de Beauvoir et Marguerite Duras, on considère, alors qu'il y a plein de femmes qui ont écrit, etc. Moi, je ne dirais pas, je ne lis pas les hommes, parce qu'il y a des textes magnifiques des hommes et il y a des textes épouvantables écrits par des femmes. Donc, mais il y a aussi des textes magnifiques écrits par des femmes, par plein de femmes, des films. Et d'ailleurs, je dis ça dans mon livre. Je suis très frappée du nombre de films venant de tous les pays, depuis une dizaine d'années, qui parlent de cette émancipation. Souvenons-nous de ce magnifique film d'une Saoudienne, son nom ne me revient pas à l'instant là, mais il est dans mon bouquin, sur cette petite fille qui veut faire du vélo. Donc elle apprend plein de choses, etc., pour gagner un concours. Alors on croit que du coup, elle dit « qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent ? Je vais faire du vélo ». Et enfin, elle fait du vélo. Bon, voilà, une autre, c'est un combat pour faire de la musique. Il y a ce très beau film aussi où les femmes, parce que c'est interdit en Iran, veulent aller sur scène, danser, chanter. Oui. Voilà le féminisme universel.
Mais
chacun s'y prend à sa manière.
Oui, mais et puis vous citez comme emblème d'un féminisme universel le mouvement MeToo, comme exemple
absolument
mondial et d'inspiration universelle. Mais je reviens à Lise Coffin qui est une voix parmi d'autres aujourd'hui du féminisme ultra ou radical qui émerge. D'où vient, à votre avis, Martine Sorti, cette radicalité, cette colère, cette volonté séparatiste, vous employez le mot dans votre livre, séparatisme. Notre société a à ce point échoué à vivre en commun ?
Écoutez, comme je suis une vieille bonne femme, puisque j'ai été militante des années 70, donc j'ai plus 20 ans, je les ai eues mais je ne les ai plus. Si je compare la situation des femmes aujourd'hui avec la situation des femmes au début des années 70, avant que le MLF produise un certain nombre de changements, moi je peux pas. Je trouve qu'il y a du progrès, évidemment. Il y a des changements positifs. Mais maintenant, il y a aussi toute une série de combats qui ne sont jamais gagnés. Regardez la question du viol et des violences. Nous, on s'est battus aux années 70 contre le viol pour qu'il soit jugé comme un crime par les assises. Je vois que 50 ans après, en effet, le viol n'a pas disparu, ni même le harcèlement, ni même les violences sexistes, mis tout le monde. Et donc, il faut se battre. Donc, il y a une continuité. Le radicalisme, il existait aussi aux années... Dans les années 70, il y a des filles qui disaient « Pour lutter contre le viol, il faut avoir un revolver, il faut s'armer. » Ce n'était pas la majorité, mais certaines pensaient ça. Donc, des énormités, il y en a qui sont dites tout le temps, à toutes les époques. Alors,
il faut faire la part des choses.
L'air du temps...
Gisèle Halimi, qui a eu un combat éminent justement pour que le viol soit jugé, condamné aux assises, sa place est
pas
au
qu'elle, il y a eu plein d'avocats.
Oui, bien sûr, mais le procès d'Aix a été évidemment au centre de ce débat. Sa place est au Panthéon, comme le souhaite la ville de Paris.
Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'elle soit au Panthéon. Si sa famille accepte qu'elle soit au Panthéon plutôt que là où elle est enterrée, bien sûr, bien sûr. Plus de femmes au Panthéon, il y en a tellement peu que...
Merci beaucoup Martine Storti pour un féminisme universel au seuil dans la collection La République des idées de Pierre Rosanvallon. Merci d'être venu nous en parler.
Merci. Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis dans un instant le 13h. Christophe Lamarre et La France Bouge. Bonne journée.